Radio Kapi.
Oh, Kapi. Billy Van Lutumba pour le journal.
Nous ouvrons ce journal depuis la province du Nord Kivu pour faire le point de la poursuite des combats entre la coalition des groupes armés locaux, l'armée régulière d'une part, face aux rebelles du M23 dans la zone de Kiloliwe, Aru et Arubona et Sisa en chefferie de Bwito. Dans ce journal, un résumé du paiement d'impôts de la société minière Tenke Fongurume Mining du dernier trimestre. L'entreprise, comme vous le suivrez, affirme avoir versé dans le trésor public 361,57 millions de dollars. Gertrude Ndaya, formatrice sur la réussite d'une campagne, le fonctionnement des institutions locales au bénéfice des femmes, est invitée en fin de ce journal. Elle donne un condensé de l'essentiel de cette formation tenue dans le Haut-Katanga. Chers auditeurs, nous retrouvons sous peu pour nous étaler plus longuement sur les nouvelles qui font l'actualité dans nos provinces. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nord Kivu, des combats ont repris tôt ce matin sous les lignes de front dans la région des Kiloliwe, en territoire de Masisi. D'autres affrontements ont également eu lieu ce matin momentanément dans le groupement Bukombo, précisément à Rubona et Sisa, en chefferie de Bwito. Sifa Maguru pour les détails.
Les sources locales rapportent que les combats violents sont en cours ce jeudi sur l'axe Kiloliwe. L'armée serait en train de bombarder par voie aérienne les positions conquises hier par les rebelles du M23 dans la région des Kiloliwe et ses environs. C'est notamment Kaoussa et Muyange sur l'axe Masisi-Kichanga, affirment nos sources. Cependant, sur l'axe Kibumba et Buhumba, en territoire de Nyiragongo, c'est une accalmie relative qui est observée ce jeudi matin après des combats à l'arme lourde et au bombardement enregistrés hier dans la zone. Aucun changement observé jusqu'ici dans les combats de Kibumba depuis une semaine. Chaque force conserve ses positions et la situation reste tendue, affirme la société civile de la région. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
La sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge de la coordination de prévention et de la réponse aux crimes alimentaires était en visite hier dans des groupements de la chefferie d'Ngweshe en territoire de Walungu. C'est dans ces groupements de Kanyola et Izege que le consortium PAM, FAO, UNICEF réalisent des projets communautaires dans le domaine de la santé alimentaire, l'agriculture et la réhabilitation de la route de desserte agricole. La hôte de marque, Reina Yelani, a admiré l'impact réel que ces projets multisectoriels offrent aux communautés locales de cette partie du territoire, affectée par des atrocités causées par des groupes armés étrangers, les FDLR. Jean Kassami faisait partie du siège de la délégation autour de la coordonnatrice des Nations Unies pour la prévention et de la réponse aux crises alimentaires. Voici son reportage.
L'aire de santé de Mwirama, située dans la zone de santé de Kanyola, a constitué la première étape de la visite de Madame Reina Gelani. Les enfants, les femmes enceintes et allaitantes y reçoivent des produits riches en nutriments alimentaires, comme l'explique ici l'infirmier titulaire du centre, Ombeni Jean Isaac.
Elle est venue s'imprégner de la situation de ce que nous faisons sur terrain, sur la prise en charge de la malnutrition sévère, et sur la prise en charge de la malnutrition modérée, mais aussi sur le WASH.
Ensuite, la sous-secrétaire générale des Nations Unies s'est rendue à Izege où s'exécute le projet de résilience. Une route de desserte agricole menant vers les champs communautaires de 4 hectares de maïs dans le même village de Chichosi, on y trouve un bâtiment somptueux pour l'alphabétisation des adultes. Ruhune Mungu Ntakuderwa, acteur de la société civile du milieu.
Vraiment, nous sommes très enchantés d'avoir ce consortium parmi l'UNICEF et FAO. Dès qu'ils sont arrivés dans les milieux, il y a tant de changements qui se sont opérés. Nous avons bénéficié beaucoup de choses.
Les organisations paysannes trouvent leur compte dans l'employabilité. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Trois civils sont morts dans un accrochage mercredi entre FRDC et éléments de la Codeco dans le village de Zanje, proche de Libye, dans le chef-lieu du secteur de Walendupiti, dans le territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, ce sont les miliciens qui ont attaqué en premier la position de l'armée en représailles à l'interdiction à ce groupe de circuler avec leurs armes et autres effets militaires. Trois parmi ces hommes armés ont été grièvement blessés au cours de ces échanges de tirs. L'incident a perturbé le trafic sur la route nationale numéro 27. Martial Kiza.
Ce jeudi matin, un mouvement d'une centaine de miliciens de la Côte d'Eko a été observé dans l'air bastion de Lobou et Badli au nord de Libye dans le secteur de Walindoupiti. Selon plusieurs sources, ils voulaient venger leurs camarades grièvement blessés au cours d'accrochages avec le FRDC à Zandje. Des sources sécuritaires rapportent que ces assaillants dans leur fuite ont incendié 6 maisons à paille et perturbé la circulation sur l'axe Libye-Dera et Nyoka, sur la route nationale numéro 27. Un commandant de FRDC, joint sur place à Libye, dit avoir interdit à tous ses miliciens de circuler avec les armes et effets militaires dans les grandes agglomérations. Cela, précise-t-il, conformément à l'exécution de la feuille de route adoptée par ces groupes armés à Arou. La société civile locale demande à l'armée d'intervenir en urgence pour épargner la population des possibles conséquences collatérales en représailles à cette heure. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, la formation paramilitaire des volontaires issus des milieux de l'enseignement supérieur et universitaire sera lancée officiellement ce jeudi à Bengamisal, localité située à 50 km au nord de Kisangani. Le ministre des tutelles, Muindo Nzangi, et le vice-ministre de la Défense nationale sont arrivés hier à Kisangani pour cette fin, comme l'explique Jacques Mukonkole.
Cette formation paramilitaire des étudiants est prévue pour une durée d'un mois, déclare Muindo Nzangi, ministre de l'ESU. Elle connaîtra la participation des volontaires issus non seulement des milieux estudiantins de Kisangani, mais aussi de ceux venus de Goma. Un autre groupe de cette entité est attendu d'ici là, précise le ministre de tutelle. Cette activité intervient alors que certains étudiants continuent à suivre les cours prévus dans leur cursus académique. D'autres attendent encore de passer la session, la première ou la seconde selon le cas. À ce sujet, Muindo Nzangi rassure qu'il va tenir compte de la situation de tout le monde. On tiendra compte de votre situation de manière individuelle pour tous les volontaires qui acceptent d'aller faire la formation, a souligné le ministre Muindo. Il ajoute que ces étudiants sont des réservistes de l'armée nationale. Ils doivent rester mobilisés afin de se mettre à la disposition du pays au moment où on aura besoin d'eux, signalant que ces volontaires vont apprendre notamment l'autodéfense, le maniement d'armes ainsi que la discipline. Jacques Mukonkole, Kisangani. Radio Okapi.
Les ravisseurs d'un Congolais et un Chinois lundi dernier sur l'axe Kalemie-Kabimba dans le territoire de Kalemie exigent une rançon de 400 000 dollars avant leur libération. Annonce faite ce jeudi à Radio Okapi par l'administrateur du territoire de Kalemie, John Mutombo, condamne cet acte et appelle le gouvernement provincial du Tanganyika à renforcer la sécurité sur cet axe routier. Il est joint par Paulin Munanga.
J'ai essayé un peu de parler avec les chauffeurs qui est aussi parmi ceux-là qu'on a levés. J'ai discuté avec lui, il m'a dit oui, effectivement, il est en bonne santé, mais il se retrouve devant plusieurs coupeurs de route, même le Chinois aussi est là. Et quand je lui ai demandé de me passer l'un des kidnappers, il m'a passé, j'ai parlé avec le kidnapper, je leur avais demandé pourquoi vous les avez enlevés et quelles raisons, quelles infractions qu'ils ont commises. Tout ça, non, nous cherchons l'argent, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut chercher de l'argent, puisque ce sont des pères de famille. Je demande au gouvernement provincial de nous envoyer les militaires, surtout forces terrestres, pour sécuriser quand même ces tronçons, puisque vous savez, c'est une route qui est fréquentable à tout moment par les cultivateurs, par même nos partenaires chinois.
La société minière Tenke Fungurume Mining déclare avoir contribué au trésor public de la RDC au cours du dernier trimestre à hauteur de 361,57 millions de dollars. C'est au titre d'impôts et autres paiements connexes et certains services administratifs publics de la RDC. Ce géant minier l'a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public lundi dernier. Considérant ces données, elle se dit fière de contribuer à la croissance économique du pays. Jean Gandou pour d'autres détails.
La société Tenke Fungurume Mining annonce qu'au troisième trimestre 2023, elle a produit environ 69 755 tonnes de cathode de cuivre et 5 686 tonnes de cobalt métal sous forme d'hydroxyde de cobalt. Pour ce qui est des responsabilités sociétales, depuis 2006, elle renseigne qu'elle a financé des projets communautaires pour un total de 279,39 millions de dollars américains. africain. Elle alloue aussi 0,3% du produit net de la vente des métaux au fonds social communautaire. Depuis le lancement de la production, les contributions engagées dans le fonds ont été estimées à 65,39 millions de dollars américains, dont 6,33 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2023. Au regard des conditions fiscales actuelles qu'elle applique, plus de la moitié des retombées économiques générées par le projet restent en RDC sous forme de taxes, redevances et droits. Et si l'on inclut les impacts économiques résultant de la fourniture des services au niveau local, par exemple achat de l'énergie auprès de la SNEL, c'est plus de 2/3 des retombées du projet qui restent en RDC. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Alpha Gear Energy, pour sa part, une société des droits canadiens, confirme la signature du contrat de partage des productions pour l'extraction du gaz méthane sur le lac Kivu. Au cours d'une conférence de presse ce mercredi 8 novembre, ici à Kinshasa, Christian Amouli, représentant de cette société ici en RDC, a affirmé que la prochaine étape est la ratification du contrat par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Toujours selon lui, les études d'impact socio-environnemental de ce contrat seront effectuées par les deux universités congolaises. Christian Amouli le dit à Paul Matendo.
La prochaine étape, au fait, ce que nous attendons, c'est la ratification du contrat par son Excellence le Président de la République. Et puis, de ce moment-là, le contrat entre en vigueur. Et puis, voilà autre chose qu'on ne vous dit pas. Nous sommes en partenariat avec deux plus grandes universités du Sud Kivu, UOB et UEA. Nous sommes en partenariat avec eux. Nous avons des papiers signés. Encore, comme je vous dis, il y a chaque partenariat que vous signez dans un projet pareil, ça a des clauses de non-confidentialité. Et en ce qui concerne des activités aussi au Congo, la prochaine activité, au fait, c'est que les deux universités là commencent l'étude d'impact environnemental et social.
La République démocratique du Congo va désormais développer la chaîne de valeur de son piment, très enviée aujourd'hui selon le ministère de l'Industrie sur le marché international. Autour du directeur de cabinet de ce ministre, qui consolide davantage la mise en œuvre du plan des directeurs d'industrialisation, les experts ont entamé ce mercredi à Kinshasa une série de rencontres pour peaufiner des stratégies en vue d'accélérer la création des entreprises de transformation des piments destinées à l'exportation au niveau de la zone économique spéciale de Moussienene dans le territoire de Lubero au nord Kivu et de pilote de Maluku à l'est de Kinshasa. Selon Jean Dieudonné Kavessé, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, c'est pour ainsi répondre à la commande des milliers de tonnes faites par la Chine dans la fabrication des gaz lacrymogènes et des rouges à lèvres ainsi que la protection des câbles souterrains. Reportage de Jean-Désiré Kanyama.
En croire l'expert qui accompagne une entreprise qui a monté un projet de transformation du piment congolais, la RDC a tous les atouts pour développer cette chaîne de valeur des piments. Adelar Lofungola.
De par son sol, de par la capacité des lots, de par son climat, la RDC a tous les atouts à produire suffisamment de piments. C'est un projet qui peut créer plus de 2500 à 5000 emplois.
Les directeurs des cabinets adjoints du ministre de l'Industrie annoncent une imminente mission économique en Chine pour attirer les partenaires commerciaux extérieurs. Effectivement, dans la perspective de rendre effectif ces projets et en même temps capter ces grands marchés, a fait entendre Adrien Bakunzi Barianga.
Compte tenu des vertus de cette plante, le piment aujourd'hui est une denrée qui est très recherché au monde entier et dont le volume s'évalue à milliards de dollars sur le marché international. Nous sortons d'une réunion pour préparer cette visite en Chine pour relancer la filière piment, la chaîne de valeur piment en RDC. Puisque les commandes chinoises se chiffrent à des milliers de tonnes par mois,
cette politique s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'agro-industrie prônée par le président de la République, a dit Jean Dieudonné Kavessé, directeur du cabinet du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia.
La synergie des organisations membres de la société civile dénonce la campagne électorale précoce observée à travers la RDC en violation du calendrier des élections. Dans une déclaration signée hier par ces structures, le constat a été fait après la publication des listes définitives des candidats présidents de la République, des députés nationaux et provinciaux. Au ministère de l'Intérieur, à la CENI et au CESAC de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la campagne électorale. François Kadima.
Cette déclaration est signée par l'Association africaine de défense des droits de l'homme, la nouvelle société civile congolaise, Agir pour les élections transparentes apaisées et les comités nationaux femmes et développement. Ces organisations notent qu'ils s'observent dans les rues de Kinshasa et dans certaines provinces des banderoles, des affiches et des panneaux géants avec des messages de candidats dans la course aux élections. Alors que la campagne électorale n'a pas encore commencé, certains candidats envahissent les espaces publics, les médias traditionnels et en ligne, s'indignent ces organisations. L'ASADO, la NSCC, l'AETA et les CONAFED constatent également que certains leaders politiques, même religieux, propagent des discours séparatistes aux connotations régionalistes et tribales, incitant la haine, alors que cela menace la sécurité et la cohésion nationale. Ces organisations rappellent que la campagne électorale est autorisée 30 jours avant la date des élections et se termine 24 heures avant cette date. Des amendes allant de 200 000 à 2 millions de francs congolais sont prévues pour toute personne qui s'engage dans la campagne électorale en dehors de la loi électorale. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'armée malienne a dit mercredi avoir frappé deux engins blindés abandonnés selon elle par la mission de l'ONU dans son retrait et tombé entre les mains de ce qu'elle a présenté comme des terroristes dans la ville stratégique de Kidal. La surveillance aérienne menée mardi et mercredi a identifié des terroristes en possession des deux engins blindés abandonnés par la MINUSMA à Kidal, a dit l'armée sur les réseaux sociaux. Les deux blindés ont été neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée, a dit cette dernière. Et puis, les autorités guinéennes ont offert mercredi une récompense équivalente à plus de 54 000 euros pour la capture du dernier ancien haut responsable de la dictature de Moussa Dadis Camara, encore dehors après sa sortie de prison samedi lors d'une opération commando. Des hommes lourdement armés ont extrait samedi Moussa Dadis Camara et trois autres prisonniers de la prison centrale de Conakry. Ils sont actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous sa présidence, l'une des pages les plus sombres de l'histoire guinéenne.
L'invité.
20 femmes candidates aux élections municipales des provinces du Kasaï Oriental, Lomami, du Haut-Katanga et de Lualaba ont clôturé le week-end dernier à Lubumbashi la formation sur la réussite d'une campagne et le fonctionnement des institutions locales. Cette formation a été organisée par l'ONG Democracy Reporting International avec l'appui financier de l'Agence allemande de la coopération internationale. Gertrude Ndaya, formatrice lors de cette session, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour Madame Gertrude Ndaya, vous revenez de Lubumbashi où vous avez été retenue comme formatrice pour former les femmes candidates aux élections du 20 décembre prochain. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette formation?
Bonjour Maman Esther. Effectivement, nous avons été recrutés par Democracy Reporting International pour former les femmes candidates aux élections municipales locales. Comme vous le savez, c'est pour la toute première fois depuis 2006 qu'on va organiser les élections au niveau local. Alors, il était important d'outiller les femmes candidates pour savoir quel est le rôle qu'elles doivent jouer en tant que conseillères de commune ou conseillères urbaines. Donc, il fallait vraiment les outiller. Nous avons commencé cette formation d'abord en Bujimaï pendant 5 jours. Nous avons formé des femmes candidates qui venaient du Kasaï oriental et de la province de Lomami.
Pourquoi vous les avez encore regroupées à Lubumbashi?
Ok, elles ont reçu d'abord une première formation théorique ici à Mbujimaï. Ensuite, nous sommes allés à Lubumbashi, nous avons fait la même formation pour les femmes qui venaient du Lualaba et du Haut-Katanga. En troisième position, nous avons regroupé et les femmes qui avaient été formées à Mbujimaï 10 et 10 autres qui avaient été formées à Lubumbashi, nous les avons mis ensemble et là, elles ont dû bénéficier de l'expérience d'autres femmes congolaises pour la plupart qui venaient d'ailleurs. Mais il y a eu aussi les échanges d'expériences avec des femmes européennes et des femmes de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique de l'Ouest, qui sont également dans les institutions locales. Et à cette occasion, nous avons pu donner à chaque femme candidate congolaise une mentor.
Et quel sera donc le rôle des mentors?
Ok. Alors, les mentors doivent accompagner les femmes candidates. D'abord, elles ont commencé par partager l'expérience. Ensuite, elles ont aidé les femmes candidates à élaborer leur plan stratégique de campagne. Elles ont fait un programme de suivi, d'accompagnement. Donc, chaque femme mentorée avec son mentor. Et tout le long du processus, les mentors auront la noble mission d'accompagner les femmes candidates dans le processus jusqu'à la fin des élections. Mais ce que nous avons souhaité, c'est que l'accompagnement ne s'arrête pas là, parce que quand elles seront élues, il faudra aussi continuer à renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent donner un meilleur rendement. Elles ont été aussi capacitées dans la levée de fonds, parce que bon, on ne peut pas faire la politique sans moyens. Et ce que nous avons beaucoup retenu, c'est que compte tenu de la mission qui est la leur, elles ne devraient pas s'aventurer dans des promesses fallacieuses et prendre des engagements qui ne sont pas dans leur mission. Par exemple, donner de l'argent aux électeurs, promettre la construction de ceci, la construction de ça.
Et les mentors, vous dites qu'elles sont venues de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Europe. Elles ne sont pas avec elles sur terrain. Comment se fera donc le suivi?
Oui, on utilise les nouvelles techniques de communication. Donc, il faut faire remarquer que toutes les mentors n'ont pas pu venir à Lubumbashi. Elles ont eu des contacts avec leurs mentorés par vidéoconférence. Donc nous avons organisé des vidéoconférences. Ainsi, elles ont présenté ce qu'elles devaient présenter. Et c'est par ce système-là ou cette technologie-là que l'accompagnement va se poursuivre. Évidemment, il est prévu après 3 mois de faire une évaluation. Alors l'évaluation-là, nous estimons que ça doit vraiment être fait en présentiel. Parce que celles qui n'ont pas pu venir, elles n'ont pas eu le visa et on a été obligé de faire les échanges en vidéoconférence.
Madame Gertrude, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Maman Esther.